Bienvenue à Partenaires en affaires, une série en balado-diffusion qui offre des conseils, aborde des dossiers chauds et traite de perspectives économiques susceptibles d'intéresser les petites et moyennes entreprises. Je m'appelle Pierre Duhamel et je suis commentateur et blogueur à la chaîne Argent du groupe TVA. Cette diffusion est présentée en collaboration avec la Banque de Montréal. La planification financière, cela semble aussi attrayant qu'une visite chez le dentiste. Pourtant, épargner pour la retraite, léguer son entreprise à ses enfants, voilà des objectifs concrets et à la portée de tous les dirigeants de PME. Mais on oublie souvent que ces objectifs seront rendus possibles grâce à une bonne planification financière qui vous permettra de réduire vos impôts. Pour vous aider à mettre de l'ordre dans nos pensées et dans nos affaires, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Éric Julien, associé et fiscaliste chez Raymond Chabot, Grant Thornton à Montréal. Bienvenue, Monsieur Julien.
Bonjour, Monsieur Duhamel.
Pourquoi faut-il faire une planification fiscale? Qui peut bénéficier d'un tel exercice?
Dans un premier temps, je vous dirais que l'objectif de base d'une planification fiscale, il y a en soi un objectif double. Le premier est la réduction des impôts au niveau corporatif, donc les impôts de la société. Et le deuxième est au niveau de la réduction des impôts des actionnaires, de l'actionnaire ou des actionnaires dirigeants. Dans un premier temps, je vous dirais au niveau de l'impôt des sociétés, ce que un fiscaliste va tenter d'aller chercher au niveau d'une bonne planification fiscale, on va tenter dans un premier temps de maximiser les déductions fiscales pour la société. Dans un deuxième temps, on va tenter également de profiter des formes d'aide qui sont offertes à l'industrie dans laquelle la société œuvre. Donc, on peut parler de subventions, on peut parler dans certains cas avec des partenaires comme Investissement Québec, ces derniers offrent des prêts sans intérêt. On peut parler de crédits d'impôt qui peuvent être dans certains cas des crédits d'impôt remboursables. L'autre objectif également qu'on peut aller chercher avec une bonne planification, c'est la protection des actifs. Donc, on peut, dans certains cas, vouloir mettre à l'abri certaines sommes d'argent ou certains actifs qu'on a bâtis dans l'entreprise à l'encontre de créanciers éventuels. Dans un deuxième temps, il y a la réduction des impôts des actionnaires dirigeants. C'est sûr qu'il y a un exercice dans une bonne planification fiscale qui est celui d'analyser la rémunération des dirigeants. Donc, la répartition du salaire versus les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Il y a également l'analyse des événements qui peuvent occasionner une charge d'impôt importante pour ces actionnaires-là. Et quand je parle d'événements, je vais rapidement vous nommer trois événements importants. Si l'actionnaire vend ses actions à une tierce partie, si l'actionnaire désire transférer ses actions à ses enfants, ou si l'actionnaire ultimement décède, ces trois événements-là vont occasionner une charge d'impôt importante pour l'actionnaire, d'où l'importance de bien planifier nos choses et d'essayer de monter une structure fiscale qui va permettre soit d'annuler complètement ou soit de réduire considérablement les impôts à chacun de ces événements-là.
Vous m'amenez à ma deuxième question. Est-ce que c'est un exercice annuel, donc on doit refaire chaque année, et si oui, quand doit-on s'y mettre? Ou, de la façon que je vous entends, c'est un exercice vraiment à plus long terme, là, qui fait partie même de la structure de l'entreprise. Comment concilier le court terme puis le long terme?
À ce niveau-là, je vous dirais, c'est la planification fiscale, normalement, elle est viable sur plus d'une année. Donc, lorsqu'on met une structure en place, on doit, entre autres, regarder qu'est-ce qu'on utilise comme véhicule pour exploiter notre entreprise. Dans certains cas, le plus connu, c'est la société par action. Donc, beaucoup d'entreprises sont exploitées par le biais d'une compagnie, là, selon la dénomination québécoise, ou une société par action selon la charte fédérale. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'autres véhicules qui peuvent être analysés, entre autres le véhicule des fiducies, le véhicule des sociétés de personnes, le véhicule des joint ventures, dans certains cas, là, je pense que le terme français, c'est les partenariats. Donc, à partir du moment où on montait une structure, on a utilisé les bons véhicules, je vais vous dire, cette structure-là peut être bonne pour plusieurs années. Il suffit à chaque année de s'assurer que les objectifs des actionnaires et de l'entreprise n'ont pas été modifiés et qu'on n'a pas besoin, dans le fond, d'effectuer de modifications à la structure. Si c'est le cas, on va s'ajuster au fil des ans, mais il n'y a pas de restructuration majeure normalement que lorsqu'elle est bien mise en place dès le départ.
Donc, je comprends bien, vous n'accompagnez pas le dirigeant d'entreprise tout au long de de sa présidence ou à sa tête de l'entreprise, vous intervenez à un moment précis quand il s'agit de construire l'édifice?
Ben, ce que vous me parlez, c'est parce que le terme planification fiscale est très large. Donc, quand on parle d'une planification fiscale, on parle de la mise en place de la structure qui va gérer notre entreprise pour plusieurs années. C'est sûr que, à titre de conseiller, je suis mes clients à chaque année et on prodigue des conseils de façon sur une base annuelle. Par contre, pour répondre à votre question, on n'est pas obligé de changer complètement la structure à chaque année. C'était votre question principale.
Oui, je vois très bien la différence.
Par contre, on peut suivre l'actionnaire et voir s'il y a une évolution dans ses besoins et ajuster aux besoins la structure au fil des années.
Quel impact une bonne planification fiscale peut avoir sur la rentabilité d'une entreprise? Est-ce que vous avez des exemples de structures que vous avez mises en place et qui sont avérées vraiment profitables?
Écoutez, il y a des véhicules qui sont plus ou moins connus, entre autres le véhicule des fiducies familiales qui peut procurer des avantages importants pour les actionnaires, surtout au moment de la disposition des actions. Quand je parle de disposition, là, c'est un petit peu les trois événements qu'on a mentionnés précédemment, c'est-à-dire en cas de vente, en cas de transfert aux enfants ou en cas de décès. Ces structures-là peuvent permettre d'aller chercher les avantages fiscaux des membres de la famille. Donc, si on a une conjointe et des enfants, on sait, entre autres, qu'il existe une exemption de gain en capital de 750 000 $ Et cette exemption-là, ben tout individu a droit d'éviter le gain en capital jusqu'à concurrence d'une somme de 750 000 $ une fois dans sa vie. Donc, des structures qui peuvent être mises en place, c'est des structures intéressantes qui peuvent être mises en place, c'est des structures qui vont permettre, dans le fond, d'aller chercher ces avantages fiscaux-là qui sont disponibles chez les membres de la famille dans le cas d'une vente ultérieure.
Votre travail consiste finalement à faire réaliser des économies d'impôts à vos clients.
C'est, je pense, le principe de base de toute bonne planification fiscale, effectivement.
Il y a beaucoup de monde qui, spontanément, vont dire « Ben moi, j'ai un vérificateur qui fait mes rapports d'impôts, lui, il peut s'occuper de ça. » Quel est l'avantage d'un fiscaliste?
Ben je vais vous dire, dans le fond, on a deux spécialités qui sont, deux champs de compétences qui sont très différents. Au niveau de la comptabilité, les rapports annuels sont faits par le comptable. Tout ce qui est, dans le fond, le bénéfice net, les résultats annuels, c'est le travail du comptable. Au niveau de la planification fiscale, c'est vraiment, vraiment du ressort d'un fiscaliste parce que le fiscaliste est le maître d'œuvre, dans le fond, de la loi de l'impôt. Donc, c'est lui qui va lire la loi de l'impôt, c'est lui qui va suivre l'évolution des budgets, autant fédéral que Québec, qui sont énoncé à chaque année, et dès qu'il y a des modifications au niveau de la loi de l'impôt, c'est lui qui va pouvoir, dans le fond, réagir et proposer des solutions alternatives à ses clients si jamais il y a des planifications fiscales qui sont abolies ou s'il y a des modifications au niveau de la loi de l'impôt. Donc, je pense que chacun a un rôle très, très différent à jouer et chacun travaille en collaboration l'un avec l'autre, autant que le comptable a besoin du fiscaliste et autant que le fiscaliste a besoin du comptable.
Il y a une complexité inhérente aux lois de l'impôt, hein. C'est mon opinion puis celle de beaucoup de monde. Comment un fiscaliste se prépare-t-il à maîtriser toutes les subtilités, finalement, d'une loi excessivement complexe?
Je vous dirais que n'importe quel fiscaliste qui veut, dans le fond, bien faire son travail se doit de façon annuelle de se maintenir à jour. Donc, il y a plusieurs associations, entre autres l'Association canadienne d'études fiscales qui donne des congrès annuels, l'Association de planification fiscale et financière qui est une association québécoise qui donne encore là aussi de la formation. Il y a également, ben, dans les firmes comptables, des réunions de secteur qui, chez nous, chez Montchabot, on a des réunions de secteur à tous les deux semaines où il y a un partage des idées qui est fait et il y a effectivement beaucoup, beaucoup de lectures parce que autant les gouvernements fédéraux que provinciaux nous envoient de façon régulière des modifications aux lois actuelles et des bulletins d'information sur des politiques administratives qui ont pu changer. Donc, je pense qu'un bon fiscaliste se doit d'être à l'affût de toutes les nouveautés en termes de modifications législatives.
Écoutez, merci beaucoup, Maître Éric Julien, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien de la série « Partenaires en affaires ». Vous pouvez télécharger cette série en balado-diffusion sur les sites bmo.com et argent.canoë.ca, le site de la chaîne Argent. Ici Pierre Duhamel, commentateur et blogueur à la chaîne Argent, qui vous souhaite bon succès.